Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'État a-t-il la bonne taille pour répondre au malaise social ? C'est donc parti pour le grand débat national. Il faudrait être sourd pour ne pas en avoir entendu parler, mais sans doute est-il encore nécessaire de rappeler les quatre thèmes qui ont été retenus par le gouvernement. La transition écologique, la démocratie et la citoyenneté, la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État et des services publics. Alors c'est à ces deux dernières thématiques que nous allons nous intéresser ce soir, fiscalité et dépenses publiques, organisation de l'État et des services publics. Elles ont en commun de s'intéresser au périmètre d'intervention de l'État et à son financement. La preuve à travers quelques-unes des questions suggérées par Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français. Quels impôts faut-il baisser en priorité? Faut-il revoir le fonctionnement de l'administration et comment? Ou encore, autre question suggérée par le chef de l'État, faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité? Pour le président de la République, la réponse à la crise sociale tient donc en grande partie à des choix structurels en vue d'une redéfinition de notre contrat social. L'État a-t-il la bonne taille pour répondre au malaise social? Discussion et questions que je vais poser ce soir à deux invités. Bernadette Groison, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la secrétaire générale de la FSU, la Fédération syndicale unitaire, principale organisation de la fonction publique d'État. Vous avez publié, c'était en 2014 aux éditions de l'Atelier, « En finir avec les idées fausses sur les fonctionnaires et la fonction publique ». Pour discuter avec vous, Erwan Lenoant, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant au sein du cabinet de conseil Altermind, membre du conseil scientifique de la Fondapol. Vous avez publié en 2017 aux belles lettres « La France des opportunités ». Et puis on peut vous lire de temps en temps dans l'opinion. Et je citerai une de vos dernières chroniques, c'est celle qui nous a mis la puce à l'oreille par rapport à l'émission de ce soir. Chronique intitulée « Gilets jaunes, c'est l'État-providence, non le libéralisme qui est en cause ». Alors commençons par ce débat et avec ces thèmes que j'évoquais, qui font partie justement des questions qui sont soumises aux Françaises et aux Français, dépenses publiques, organisation de l'État et des services publics. Est-ce que vous considérez d'abord l'un et l'autre que, sur le principe, c'est une bonne chose d'inciter les Français à débattre de ces questions en particulier, Bernadette Groison?
C'est toujours une bonne chose d'inciter les citoyens et citoyennes à débattre. Et nous avions demandé, lorsque Emmanuel Macron est arrivé au gouvernement, nous avions demandé un Grenelle de l'action publique et un grand débat de l'action publique. Puisque nous avions vu les propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat, avec déjà beaucoup de choses sur la réorganisation de l'État, la fiscalité, etc. et le périmètre de l'action publique. Et donc, nous avions invité un grand débat.
C'est la preuve qu'il vous a écouté, là.
Alors écoutez, j'aimerais, mais il y a déjà eu un autre débat, celui de Cap 22, où le gouvernement d'ailleurs considère qu'ils avaient un peu répondu à notre demande, puisqu'ils avaient organisé ce débat Cap 22 qui portait sur l'action publique.
Ah, Cap 22, je précise juste, c'est Cap 2022
Cap
en fait.
Cap 2022, hein,
C'est-à-dire, c'est sur les objectifs notamment de réforme de la fonction publique sur le quinquennat.
Sur le quinquennat, voilà. Mais qui a été un débat qui s'est fait en toute confidentialité, et d'ailleurs nous n'avons été invités à aucune des réunions dans les départements, les préfectures, etc. Donc une expérience pas très bonne, je dirais, récemment de débat avec ce gouvernement. Donc là, écoutez, voilà, il y a un grand débat. Bon, les organisations syndicales ne sont pas invitées en tant que telles, c'est la population qui est invitée. Nous, autour de ça, on invite forcément tous les citoyens à se rencontrer, à débattre avec les élus, et on publiera un certain nombre de choses pour essayer de contribuer au débat d'idées, puisqu'on est quand même dans une phase politique aujourd'hui. Enfin, on l'espère en tout cas.
Erwan Lenoant, même question, que la population soit appelée à débattre, à discuter de l'organisation de l'État et des services publics, c'est une bonne idée?
Je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, c'est une bonne façon pour le président de la République d'aborder des thèmes dont on sent qu'ils sont structurels aujourd'hui dans la société, dans le malaise français. À la fois la question de la fiscalité, sur la façon dont elle peut ou non traiter les inégalités, la question de la présence des services publics dans certains quartiers de villes urbains et en même temps dans les milieux ruraux. On sent qu'il y a la question du service public, de l'action de l'État de manière générale et structurelle dans l'interrogation de la société française. Et à mon sens, elle n'a pas été traitée jusqu'à maintenant par l'ensemble des présidents qui se sont succédés, ou alors elle a été traitée sous un angle qui est nécessaire, la baisse de la dépense publique, mais qui n'est pas un angle politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vrai débat sur quel est le rôle de l'État? Est-ce que, comme le dit le président de la République dans sa lettre, est-ce que certaines missions peuvent être abandonnées? Est-ce que d'autres doivent être prises en charge par l'État? Comment est-ce qu'on les prend en charge? Jusqu'à maintenant, la question était purement budgétaire. Et l'angle budgétaire, de mon point de vue, est nécessaire, mais pas le bon angle politique pour répondre aux questions qui se posent dans la société.
Bernard Croison.
Je crains que l'angle soit quand même encore un peu budgétaire. Bon, je ne sais pas sur quoi débouchera ce grand débat. Je ne sais pas non plus ce que le gouvernement en fera, parce que les grandes interrogations, ce n'est pas le débat ce soir. Mais enfin, c'est quand même comment est-ce qu'il va être tenu compte ou non de ce qui pourra se dire, quelle est la synthèse, comment vont se faire les remontées. Bon, c'est des questions qu'on a posées au gouvernement sur lesquelles, évidemment, je crois personne n'a de réponse pour l'instant. Mais moi, je suis assez inquiète pour la FSU, puisque pour l'instant, tout ce qu'a écrit le gouvernement, et je pense au courrier d'Édouard Philippe à l'automne dernier, je pense justement aux orientations de ce fameux et à l'issue de ce fameux débat de Cap 22. Hein, il y a quand même un document qui a été produit qui s'appelle « Refonder le contrat social avec les agents publics », qui concerne donc les plus de 5 millions d'agents, qui est assez clair, où toutes les mesures doivent rentrer dans la baisse de la dépense publique, où le Premier ministre parle effectivement comment on réduit le périmètre de l'action publique, voire comment on externalise, on privatise. C'est-à-dire que le gouvernement a, depuis son arrivée, donné une tonalité, donner un cadre au débat qui invite plus à comment on réduit la dépense publique et comment on limite les services publics que l'inverse. Alors, et d'ailleurs, dans son courrier, vous preniez la phrase d'Emmanuel Macron qui dit en gros quels sont les services publics que nous pourrions supprimer. Il y en a une autre juste derrière qui dit quand même, est-ce qu'il y a des services publics nouveaux ou émergents?
À l'inverse, voyez-vous des besoins nouveaux de services publics et comment les financer?
Mais voilà, mais tout de suite, on a derrière la question du financement et je pense que nous allons revenir sur cette question du financement de façon à ce qu'on ne se laisse pas corseter non plus et à ce qu'il y ait un débat aussi déjà en dehors des financements et qu'on regarde ensuite évidemment comment on peut financer. Mais il y a une vraie question que nous, on aimerait poser, donc on a posé dès l'arrivée de ce gouvernement. Quels sont aussi aujourd'hui les besoins qui doivent être pris en charge de l'État? Quels sont leurs périmètres? Et quels sont les besoins au regard des évolutions de la population, mais aussi des grands défis de ce siècle? Et posons-nous déjà cette question de ce qui relève du bien commun et de l'intérêt général.
Cette approche budgétaire et qui concerne la dépense publique, c'est-à-dire à la fois les besoins de financement, mais aussi le niveau de la dépense publique, il est revenu aussi dans l'actualité aujourd'hui à travers une note de France Stratégie, qui est un organisme qui est rattaché au Premier ministre, une note intitulée de la manière suivante « Où réduire le poids de la dépense publique ?» avec l'idée qu'il faut réduire le poids des dépenses publiques de 3 points de PIB en 5 ans, que c'est un objectif qui est qualifié d'ambitieux, mais de réalisable. Erwan Lenoir, dans votre précédente intervention, vous disiez qu'il ne faudrait pas réduire ça à des considérations budgétaires, mais si on s'interroge sur la question de la dépense publique, 2017, on est à 1294 milliards d'euros, 56,5 points de PIB. Si c'est pas une approche budgétaire, c'est-à-dire, ça doit être quoi le critère pour dire, il y a trop de dépenses publiques, il y en a pas assez, il y en a suffisamment?
Je crois que vous avez deux critères en réalité. Vous avez un critère qui est politique, dont on parlait à l'instant, qui est de dire quelle est la dépense, quelle est la part de dépense que les Français veulent socialiser. Qu'est-ce qu'ils veulent dépenser ensemble et qu'ils veulent qu'ils soient fournis par l'État? Quel niveau de service public qu'ils veulent. Après, il y a une question de modalité, parce qu'un service public qui peut être rendu par un fonctionnaire en situation de monopole et dans une administration, il peut aussi être rendu, et il y en a plein qui le sont aujourd'hui, par des entreprises privées. Ça, c'est une question politique.
Mais est-ce que ça veut dire, alors, juste pour rester sur ce cas-là, si il y a un service qui peut être rendu par le privé, est-ce que vous considérez que, du coup, ça ne rend plus nécessaire le fait que ça soit aussi rendu par un service, par le public?
Alors, de mon point de vue, il n'est pas nécessaire d'avoir quelque chose qui soit redondant. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose et dans le privé et dans le public. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des services publics qui peuvent être rendus par le privé. Aujourd'hui, le ramassage des poubelles, l'eau, un certain nombre d'écoles sont des entreprises d'entités privées qui rendent un service public sous contrôle de la personne publique et par un financement public. Là, on est dans la modalité d'exécution du service public. Le service public, il dira que l'égalité, l'équation qui serait service public égale monopole, égale fonctionnaire, égale administration, n'est pas vraie aujourd'hui et n'a jamais été vraie historiquement. Et après, il y a des questions de choix politique et des questions d'efficacité économique. Et la question de la dépense publique, pour revenir sur votre question, elle se pose d'un point de vue économique aussi. C'est-à-dire qu'on sait qu'un excès de dépense publique, à partir d'un certain niveau, la dépense publique nuit à l'activité économique. parce que elle a des effets de désincitation, elle a des effets de elle introduit des biais dans la façon dont l'argent est dépensé. Je donne deux exemples. Quand la personne publique dépense, ça n'est pas son argent qu'elle engage. D'accord, c'est l'argent des contribuables. Donc elle assume pas le risque. Une entreprise privée, c'est son argent qu'elle engage. Je dis pas que le privé fera mieux que le public, mais le public est incité.
C'est un petit peu ce que vous laissez entendre.
Non,
quand même.
Je veux dire que le public est incité à prendre des risques qui ne sont pas réalistes d'un point de vue économique. On peut les prendre pour des raisons politiques. On peut dire ça, nous on pense que ça sera pas rentable et on veut y aller pour une raison politique. Mais dans ce cas, il faut assumer qu'on n'est plus dans le champ économique.
Est-ce que vous êtes d'accord sur, en tout cas, l'idée qu'il faut réfléchir dans ces termes-là, Bernadette Groison ?
Non, tout d'abord, moi je crois que le public a aussi une responsabilité en termes économiques et ne dépense pas n'importe comment. Il fait attention à la manière dont on dépense l'argent public. Et ensuite, le fait de faire financer ou prendre en charge par le privé un certain nombre de missions ou de services qui relèvent du public, ça a peut-être une certaine efficacité économique, comme vous le dites, mais ça coûte très cher au contribuables et aux citoyens, qui globalement payent un peu de foi, parce que pour autant les impôts ne diminuent pas dans notre pays, et un certain nombre de structures ou d'investissements qui sont faits par le privé sont effectivement financés par le public, et vous avez parfois une double peine, je dirais. C'est-à-dire que on l'a vu dans les investissements concernant les universités, on peut le voir dans les hôpitaux. Donc vous avez des entreprises qui vont avoir en charge de rénover des bâtiments ou de prendre en charge des services de plomberie ou de je ne sais quoi.
Est-ce que là vous y voyez
un mouvement de fonds, le contribuable et le citoyen payent deux fois. Ils continuent de payer des impôts. Et en même temps, il va bien falloir à un moment payer aussi ces entreprises. Et donc, il y a des services qui deviennent payants ou dont les prix vont augmenter. Et donc, vous voyez bien que en termes de ligne budgétaire sur la dépense publique, on peut arriver peut-être à la faire diminuer ainsi. Mais le contribuable, le citoyen ne s'en aperçoit pas. Mais il continue de payer des impôts et un certain nombre de services vont du coup devenir privés, vont devenir, pardon, payants.
Et ça, Bernadette Groison, est-ce que c'est quelque chose qui, d'après vos observations, se développe de plus en plus, ou bien est-ce que ça a toujours
été... On l'a vu avec les développements, ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Je parlais par exemple des universités, on a un certain nombre de ce qu'on appelle les partenariats publics-privés qui se sont développés. Donc oui, c'est une tendance de ces dernières années. On le voit avec un certain nombre d'externalisations. Vous parliez des services de poubelle, on peut parler de l'eau, on peut parler des cantines, où on a vu ces mouvements où à un moment on fait prendre en charge par le privé un certain nombre de services. Avec beaucoup de collectivités locales en ce qui concerne la fonction publique territoriale qui sont en train d'effectuer un mouvement un peu inverse. Parce qu'on s'est par exemple aperçu que sur les cantines scolaires, faire appel à une entreprise privée coûtait plus cher et donc ça a nécessité d'augmenter les prix, les tarifs aux familles. Alors évidemment un mécontentement des familles et ce double effet, je disais, où elles continuent de payer deux fois. Et pour une qualité qui souvent était moindre. Et on a un retour, notamment aujourd'hui avec les circuits courts et la volonté de manger bio, on a un retour où un certain nombre de collectivités remunicipalisent par exemple les cantines ou les services des eaux, etc. Parce qu'elles se rendent compte que ça leur coûte plus cher, que ça coûte aussi cher aux contribuables pour une qualité qui n'est pas meilleure. Donc c'est un système qui n'a pas tout à fait fait ses preuves.
Erwan Nenouan.
Oui, non, juste sur deux points. D'abord, y compris quand c'est public, c'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un qui paye.
Il y a un impôt.
Mais voilà. Mais effectivement, il y a aujourd'hui, notamment dans l'eau, vous le disiez, dans les cantines, un mouvement de remunicipalisation qui est marqué. Et pour autant, vous le disiez, il y a eu des externalisations. Et pour autant, la dépense publique n'a pas baissé en France. Au contraire, elle a augmenté. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose de contradictoire où on aurait eu d'un côté une privatisation et en même temps une augmentation de la dépense publique sans pour autant que les citoyens aient l'impression que la qualité du service public augmente. Moi, je pense que vous avez un certain nombre d'exemples internationaux, un certain nombre d'exemples, y compris en France, qui vous montrent que le recours au secteur privé peut permettre de faire des économies, d'avoir des services d'une meilleure qualité. Je ne dis pas que c'est systématique. Je ne dis pas que le public fait systématiquement mal, ni que le privé fait systématiquement mieux. Mais qu'au contraire, c'est la concurrence des deux qui permet de dégager les meilleurs services.
Par exemple un exemple d'un secteur dans lequel vous considérez que le privé fait mieux que le public, et puis peut-être un contre-exemple où le public ferait mieux que le privé?
Aujourd'hui, vous avez un exemple, prenez les sujets d'éducation, par exemple, dans l'enseignement supérieur. Je crois qu'il est assez net que l'enseignement supérieur privé, ou qui se ou public à statut très spécial fait mieux que les universités. Sinon, l'élite française courrait se former dans les universités. Or, on sait bien que c'est pas le cas. Elle va dans les établissements type école privée ou grandes écoles à statut spécial. Et dans le même temps, prenez-moi pour un secteur où le public est très performant, le secteur de la santé, par exemple, le secteur français aujourd'hui est très bon. Ça ne veut pas dire que les cliniques sont mauvaises. Au contraire, il y en a qui sont excellentes. Mais vous avez là typiquement un secteur où public et privé peuvent être bons et travailler ensemble et en concurrence. Et c'est cette stimulation qui permet d'améliorer la qualité des services. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on a une dépense publique qui augmente et un sentiment diffus ou confus dans la société française que la qualité de service n'est pas là. Regardez et y compris, je crois, de la part des fonctionnaires dans les hôpitaux, dans la police, dans l'éducation nationale, les fonctionnaires sont pas contents. Pourtant, la dépense publique augmente.
Pour vous, autant, est-ce que vous avez l'impression l'un et l'autre que à travers ce mouvement des Gilets jaunes s'exprime une demande de quoi par rapport à la place de l'État ? C'est-à-dire, est-ce que vous y voyez une demande de davantage d'État, davantage de services publics ou bien d'abord une demande de moins d'impôts, donc de peut-être moins d'État. Bernadette Groison, et ce sera aussi la même question pour vous, Erwan Lenoir.
Oui, puis je pense qu'on reviendra après sur ce que produit le service public. Je ne partage pas tout à fait que le service public soit de moindre qualité que le privé, y compris dans l'éducation. Je ne sais pas exactement ce que disent les Gilets jaunes, puisqu'on sait que c'est assez divers et que d'un endroit à l'autre, il se dit pas forcément la même chose. Mais je crois que ce qui s'exprime de ce mouvement des Gilets jaunes s'exprime aussi toute la contradiction qui est celle de notre société, qui aspire à plus de services publics, ce à quoi évidemment j'adhère totalement, parce que je pense qu'une des formes des sociétés modernes, c'est une organisation aussi sociale partagée, où effectivement on est en capacité ensemble de définir des secteurs où on considère que là, voilà, on va le payer ensemble et on va l'organiser ensemble, y compris qui amène à revoir la place des usagers. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, où il y a un sentiment de ne pas être écouté, nous on dit pour la FSU, on le dit depuis longtemps, que la fonction publique doit revoir la place des usagers dans la définition des besoins, mais aussi dans la manière dont les services sont organisés, dont ils sont réglementés, et qu'on devrait plus prendre en compte l'avis des usagers. Donc oui, il y a une aspiration à plus de services publics, et ce mouvement qui est surtout parti de tout ce qui est périurbain, hein, c'est cette France qui a été un peu délaissée, où l'aménagement du territoire n'a pas suivi, où on ferme les maternités, etc. Donc oui, il y a une demande de services publics, mais de manière contradictoire avec une remise en cause de l'impôt. Parce qu'évidemment, ce sentiment qu'on paye toujours plus avec des salaires qui n'augmentent pas et donc on a de moins en moins de pouvoir d'achat et qu'en plus, la poste ferme, l'école, on supprime une classe, on enlève la maternité, donc ça ne va pas. Donc, on a ce débat contradictoire et je crois qu'il faut qu'on réconcilie ce débat et qu'on explique que effectivement, on ne pourra pas se financer les services publics dont nous avons besoin. Et je crois que nous aurons besoin de nouveaux services publics aussi dans l'avenir. Et qu'il faudra bien envisager de voir comment nous allons les mettre en place. On ne pourra pas faire cela si on ne regarde pas comment nous les finançons. Et je crois qu'il faut sortir de ce carcan de « il faut à tout prix baisser la dépense publique, il faut rester dans les 3% » et qu'il faut oser aller sur un débat qui est celui de la réforme de fiscalité, ce débat tabou en France. On ne peut pas parler de la répartition des richesse. On ne peut pas parler des écarts qui se creusent, parce que c'est ça qui fait mal à la société française aussi, avec ces classes moyennes qui sont prises en tranche entre des gens plus pauvres, dont ils ont peur de ce déclassement, et des gens plus riches, dont ils ont le sentiment qu'ils ne participent pas à la même hauteur qu'eux à ce qu'il faut faire. Et donc, je crois, voilà ce que disent les Gilets jaunes, c'est on a des besoins, on ne veut pas toujours être ceux qui les payons, et donc il faudra bien aussi avoir ce débat sur la fiscalité.
Est-ce que vous entendez les mêmes demandes, Erwan Lenoir ?
Partiellement, oui. Mais je dirais les Gilets jaunes de novembre, parce que ceux qu'on a aujourd'hui sont peut-être dans des revendications qui sont différentes. Je crois effectivement qu'il y a une demande de plus qui semble contradictoire, de plus de services publics et de moins d'impôts, parce que en réalité, ce qu'ils demandent, c'est un meilleur service rendu. En disant, pour le niveau de fiscalité qu'on a, le niveau d'impôt qu'on a, le niveau auquel on finance la solidarité nationale, on devrait avoir des meilleurs services. On devrait pas, vu ce qu'on paye, on ne devrait pas avoir, comme vous le disiez, la maternité qui ferme, l'hôpital qui fonctionne pas, l'école qui manque de moyens, etc.
Mais pour vous, est-ce que c'est compatible justement cette demande de plus ou en tout cas mieux de services publics avec en même temps moins d'impôts ?
Je pense que c'est compatible à condition de réformer profondément la façon dont intervient le service public. C'est-à-dire à partir de de moments où, comme je le disais tout à l'heure, et on sera probablement pas d'accord, mais où le service public est en fait non pas une question on s'intéresse pas à la nature juridique de la personne qui le rend, mais à la qualité du service qui est rendu. Et donc, c'est compatible à partir du moment où on dit ce qui va être important, c'est le service qui est rendu, qu'il soit rendu par le privé ou le public, on s'en fiche. L'important, on va regarder lequel nous coûte le moins cher pour la meilleure qualité de service. Et à partir de là, on peut réconcilier baisse de l'impôt, d'ailleurs, et meilleure gestion des services publics et en même temps une plus grande qualité du service public.
France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Voilà, l'État a-t-il la bonne taille pour répondre au malaise social? C'est donc la question que nous posons ce soir à Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, Fédération syndicale unitaire, et Erwan Lenoant, vous êtes notamment membre du conseil scientifique de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Je voudrais penser, alors je sais que vous voulez réagir à ce que on dit les uns les autres, mais juste pour avancer un tout petit peu, ça va pas nous empêcher de revenir sur ce qui a été dit sur cette tribune que j'évoquais, cette chronique dans l'Opinion, Gilets jaunes, c'est l'État providence, non le libéralisme qui est en cause. Tribune que vous avez signée il y a quelques jours de cela, Erwan Lenoant. En quoi, pour vous, ce mouvement social reflète l'échec de l'État providence? Quel lien vous faites?
Bien, je pense que et je prends un peu de perspective historique peut-être un peu grossière, mais depuis la révolution industrielle engagée dans un mouvement de transformation économique permanent par des innovations structurelles qui surgissent régulièrement, le rail, le pétrole, l'électricité, etc. Ces bouleversements économiques ont eu à chaque fois des bouleversements sociaux et politique. Je prends un exemple, l'apparition du rail a conduit à l'apparition d'un prolétariat en charge de travailler dans l'industrie, qui a conduit à des revendications sociales portées à l'époque par le socialisme de ces classes sociales dites prolétaires.
Et l'État-providence a justement permis d'atténuer les chocs de ces bouleversements.
Voilà, l'État-providence a été la réponse qui a permis d'assurer la cohésion de la société nécessaire dans une démocratie, qui a donc été la solution d'accompagnement social qui permet de compenser les transformations. Depuis les années 70, on est dans un mouvement qui est différent. On a l'État-providence qui est en panne. C'est-à-dire qu'il est confronté à de nouveaux bouleversements technologiques profonds qui sont d'une part la mondialisation et d'autre part la digitalisation. On a d'un seul coup l'éclatement des frontières, l'éclatement de la concurrence et des échanges commerciaux qui déstabilise un certain nombre de milieux sociaux, les classes moyennes dont on parlait, les ouvriers, qui transforment l'économie française et aussi a des conséquences sociales profondes.
Mais l'État-providence est bien toujours là justement pour accompagner ces changements.
Mais je crois qu'aujourd'hui il n'a plus les solutions pour accompagner ces changements. Qu'est-ce qu'il fait depuis, disons, 20-30 ans? Il considère qu'il n'arrive plus à faire croître la croissance. La croissance française est faiblarde. Donc, je prends l'image qui est peut-être un peu caricaturale, mais l'image du gâteau. On a un gâteau qui ne grandit plus. Qu'est-ce qu'on fait? On est parti du principe qu'il fallait répartir, mieux redistribuer. Et donc, on fait de plus en plus de petites parts. À partir de là, effectivement, on a une redistribution. Mais la contrepartie de la redistribution, le gâteau ne croissant pas, c'est que les gens qui sont pauvres restent pauvres, les gens qui sont riches restent riches. On a de la redistribution, mais on n'a plus de mobilité. Et l'échec de l'État-providence, il est là, dans l'absence de mobilité.
Est-ce que vous voyez, vous, dans ce mouvement et dans cette crise sociale, pas seulement peut-être dans ce mouvement, parce que la crise sociale, il faut dire qu'elle infuse quand même depuis quelques temps, Bernadette Croison, quand on est syndicaliste, je pense qu'on le sait d'autant plus, mais est-ce que vous y voyez, vous, justement, un des symptômes de la crise ou de l'échec peut-être de notre État-providence?
Non, moi je ne crois pas. Je crois que c'est certainement plus l'échec des politiques libérales, pour reprendre le contre-pied de votre ouvrage, comme ça nous sommes en plein dedans. Je crois qu'on a eu un développement de production de richesses qui n'a pas servi et qui n'a pas été redistribué, qui n'a pas été réinjecté, y compris dans l'État-providence, en tout cas de manière suffisante. Et on a un creusement des inégalités, c'est vraiment une évidence de le dire, entre des riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Et je crois que si on n'avait pas cet État-providence, je ne sais pas d'ailleurs si c'est encore le bon terme aujourd'hui, mais en tout cas, si l'État ne jouait pas son rôle aujourd'hui, on n'aurait pas la la protection sociale que l'on a. On n'aurait pas l'assurance chômage.
Donc les inégalités seraient bien pires.
On n'aurait pas... Évidemment, et tous les observateurs étrangers en 2008 ont dit que la France est le pays qui s'en sort le mieux dans la crise économique et financière qui frappe les pays européens parce qu'elle a des services publics. Donc je crois que l'État joue et a joué son rôle et continue de le jouer malgré des inégalités et malgré évidemment une pauvreté, une précarité qui se développe et dont nous avons évidemment tout à fait conscience et que nous voyons tous les jours. Non, moi je crois qu'il faut dire que les services publics jouent leur rôle dans ce pays. Ils l'ont toujours joué. Je crois que la fonction publique a su se réformer et n'a cessé de se réformer depuis des décennies, depuis qu'elle existe. Elle a su s'adapter à la fois aux besoins nouveaux qu'il fallait couvrir, à la fois d'un point de vue réglementaire, et elle a joué ce rôle aussi bien que les entreprises, mais on ne peut pas demander à la fonction publique d'être le moteur essentiel de la croissance. Enfin, le public rend des services, le privé est là pour produire des richesses et faire du profit. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, quand vous disiez, on s'en fiche, soit le privé ou le public qui rendent les services, non, on ne s'en fiche pas, bien sûr que non. L'objectif n'est pas le même. Et ce qu'on va faire de l'argent n'est pas le même. Le public n'est pas là pour faire du profit, il est juste là pour rendre des services, ce qui n'est pas le cas du privé. Mais par contre, le public participe de la croissance. 76% des investissements des collectivités locales sont des investissements faits dans les infrastructures qui vont permettre à des entreprises, par exemple, de s'installer en territoire rural ou d'avoir des routes ou d'avoir des connexions, etc. C'est-à-dire que le public participe de cette croissance. Le niveau de qualification que produit le pays, et là je suis en désaccord avec ce que vous disiez tout à l'heure, l'enseignement supérieur, en grande partie l'enseignement supérieur public, parce qu'il n'y a pas que l'université qui est publique dans le pays, il y a aussi des grandes écoles qui sont publiques, a permis d'augmenter 3 points en quelques années le niveau de qualification. Et la France est un des pays européens où il y a le niveau de qualification le plus important aujourd'hui. Et ça, c'est le public qui a permis cela. Donc je crois qu'on a des services publics qui ont fait la preuve, si on veut effectivement les regarder honnêtement, de ce qu'ils sont en capacité de faire, y compris dans la tourmente qui est celle de la mondialisation. Mais je crois qu'il y a une chose sur laquelle il ne faut pas mentir. Et puisqu'on est dans cette période de débat, il faut dire les choses. Il ne faut pas se mentir. Si on veut des services publics de qualité, à un moment, aujourd'hui, ça va supposer des investissements supplémentaires. C'est pour ça que j'insiste sur ce débat sur comment on finance et est-ce qu'on est décidé.
Donc des investissements, donc voilà, davantage de dépenses publiques.
Comment on fait grossir ce fameux gâteau dont vous parliez. Ouais. C'est pas simplement comment on partage en tranches. C'est comment on fait pour faire grossir ce gâteau et comment on fait circuler mieux l'argent.
Donc davantage d'impôts et davantage de dépenses.
Un impôt plus progressif, en tout cas, peut-être, parce qu'on peut revoir aussi peut-être l'impôt qui n'est pas aujourd'hui avec la réduction des tranches, peut-être d'une progressivité qui permet de faire circuler cet argent, mais juste pour terminer sur ce propos, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a des besoins nouveaux dans notre société qui devraient amener à augmenter encore le périmètre de l'action publique. Une population qui augmente avec une espérance de vie qui augmente. Donc des personnes âgées dont nous voyons bien qu'il y aura un certain nombre de services à rendre. Nous pensons que l'État, les collectivités et l'hospitalière ont un rôle accru en ce domaine. La transition écologique va forcément amener aussi l'État à jouer son rôle dans ce sujet. Bon, il y a un certain nombre de défis, de besoins qui sont devant nous, qui vont amener à service public, mais je ne suis pas d'accord avec Monsieur Noam, c'est que il faut arrêter de faire croire aux Français que la question des services publics, c'est simplement une question d'organisation et qu'on peut faire beaucoup mieux avec moins. Ça, c'est pas vrai.
Erwan Lenoir.
Ça, c'est faux. Non. Et il ne faut pas leur mentir sur ce sujet. Et je vous prends juste un exemple parce que peut-être.
Ça va être très rapide, hein, juste oui, pour qu'on voit la
question. Je prends l'éducation.
Qu'on échange
si
un petit
voulez.
Peu quand même.
On explique aujourd'hui qu'avec moins de postes, on va faire mieux. Non. Avec moins de postes, on fera pas mieux. Des élèves supplémentaires qui vont rentrer au collège ou au lycée à la rentrée prochaine, on enlève 2500 postes d'enseignants. Quand on connaît les inégalités scolaires liées aux inégalités sociales, à un moment, enseigner, ça passe aussi par des enseignants. Donc non, ne faisons pas croire qu'on fera mieux avec moins. On ment si on dit ça.
C'est à vous.
Bon, merci. Je vais revenir juste sur deux points. Le premier, c'est que les politiques libérales en France, je suis pas certain de les avoir vues. La dépense publique n'a cessé d'augmenter et considérablement sur les 30 dernières années, ce qui pour moi est un indicateur assez bon du fait que le libéralisme est quand même pas triomphant en France. La dette également, le déficit public également, la fiscalité aussi. Je pense qu'en termes d'indicateurs de libéralisme, on trouve mieux.
Vous voulez dire que si le libéralisme s'il y avait davantage de politiques libérales, ça aurait forcément un impact sur la réduction de la dette?
Je pense que si on était dans un pays qui a mené des politiques libérales, on aurait on n'aurait pas le niveau record de dépenses publiques de tout l'OCDE,
ça
pas
sur les dépenses,
européenne,
oui, ça
se... pas le niveau, pas le même niveau de fiscalité également. On est un record sur la fiscalité, on est un record sur la fiscalité sur les entreprises, on est un record sur la fiscalité sur les ménages qui est plus élevé que dans les autres pays de l'Union européenne. Vous disiez que l'impôt sur le revenu n'est pas progressif, il est quand même
plus
extrêmement
élevé pour les ménages que pour les entreprises d'ailleurs.
Oui, mais il est aussi record quand même pour les entreprises. Et pour les entreprises, il est également très progressif, parce qu'en réalité, c'est une minorité d'entreprises qui payent la majorité de l'IS. Et si vous prenez un pays comme l'Allemagne, qui semble être non plus un libéralisme débridé, en Allemagne, la dette publique baisse. La dette publique baisse. Qu'à un moment, dans les années 2000, on a dit maintenant on va contrôler les dépenses publiques, on va avoir un certain niveau de services publics en maîtrisant la dépense publique. Et là, aujourd'hui, la dette allemande baisse. La France est l'un des seuls États de l'Union européenne où la dette publique continue d'augmenter. Et on vient de franchir le seuil du 100%. Deuxième remarque sur ce que vous disiez sur le besoin de réduire les inégalités. Pourquoi pas? Mais les inégalités en France, vous le savez, sont parmi les plus faibles de tout l'OCDE. La redistribution fonctionne, c'est vrai. Avant redistribution, les inégalités sont fortes.
Alors que c'est que l'État-providence n'est pas si mauvais, alors.
Mais j'en viens, je réagis.
Vous allez refaire
après
votre livre, non, je crois.
Mais les inégalités en France sont parmi les plus faibles de tout l'OCDE. Elles ont très peu évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'en France, les riches reste à un niveau d'écart qui est relativement stable dans le temps avec les personnes les plus pauvres. Mais la contrepartie de ce maintien entre deux bornes, c'est qu'il n'y a pas de mobilité sociale en France. Vous parliez d'éducation, mais le système d'éducation nationale français est de l'OCDE celui qui est le plus déterministe socialement. C'est-à-dire que quand vous êtes enfant venant d'un milieu défavorisé, vous n'avez aucune chance en France de monter le fameux ascenseur social, escalier, ce que vous voulez.
Et d'ailleurs, Erwan Nenouan, si j'ai bien compris votre chronique pour l'Opinion, les Échos,
Le Figaro.
Ah bah voyez, alors je me suis trompé tout à l'heure. Si je vous ai bien lu, c'est-à-dire vous expliquez aussi, c'est pas comme ça que vous le dites, mais finalement cette absence de mobilité sociale par l'impact de l'État-providence qui d'une certaine manière déresponsabilise aussi une partie de la population. Est-ce que c'est bien
alors,
ce que vous,
là,
vous
voilà,
essayez de
alors
dire?
Voilà, on est sur un autre champ. Je pense que l'État-providence s'est construit a construit une relation purement verticale entre les citoyens, les contribuables et lui. Et l'État en France, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en anglais on parle de welfare state, l'État du bien-être. En France, c'est l'État-providence. Il y a quelque chose de quasi divin. Et il y a une relation verticale qui est parfaite. L'État, quand il s'est construit, l'État-providence, quand il s'est construit, a éliminé les organisations sociales traditionnelles, la solidarité par l'Église, par les organisations culturelles, a éliminé la négociation sociale. Je veux dire, si aujourd'hui le rôle des syndicats, est plus faible en France qu'il est dans d'autres pays, c'est parce que là, c'est l'État qui décide de la relation sociale. Et une fois que cet État se trouve en crise, les citoyens se retrouvent seuls face à personne. Ils sont d'où le désarroi social dans lequel ils se retrouvent aujourd'hui. Quand vous avez un effondrement comme ça de cette solidarité verticale et qu'il n'y a plus de solidarité horizontale, les citoyens se retrouvent seuls face à eux-mêmes. Je prends un exemple, la crise de 2000, la canicule en 2003. Je trouvais assez révélateur que la polémique porte sur qu'a fait l'État. La première polémique pour moi aurait été qu'avez-vous fait pour votre voisin? Que faites-vous pour le SDF au bas de votre rue? Que faites-vous pour l'école qui fonctionne pas en bas de, ou le parc est sale en bas de chez vous? Un certain nombre de citoyens aujourd'hui vous disent, nous on paye des impôts, c'est donc à l'État de le faire. Je prends un exemple très, très trivial, mais dans une rue de Paris l'autre jour, une vieille dame accompagne son petit chien qui fait ses besoins sur le trottoir. J'entends quelqu'un qui lui dit, mais vous pourriez ramasser. Et elle a répondu, et je vous promets que c'est vrai, elle lui a dit, je paye des impôts pour ça. À partir du moment où vous estimez que vous payez beaucoup d'impôts et qu'il y a des services qui sont là pour ça, pourquoi est-ce que vous voulez le faire?
Bernadette Groison.
Non mais moi je vais lire votre livre avec intérêt, mais je ne vais pas lui faire une fausse publicité, pas une mauvaise, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui il soit encore question d'État-providence. Je crois que c'est un débat qui est un peu derrière nous, et je crois qu'aujourd'hui on parle davantage et on doit parler davantage du modèle social. C'est-à-dire que comment on organise la société? Quelle est la part effectivement du privé et du public? De quels besoins, à quels besoins l'État doit-il répondre? Et dans l'État, évidemment, il y a les collectivités locales. Et quelle est la place de tout à chacun? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous, on a une réflexion sur aujourd'hui comment on associe mieux les usagers au fonctionnement des services publics que rendent l'État, les collectivités locales et aussi bien sûr les hôpitaux, et comment effectivement on rend tout le monde acteur. On a souvent demandé aux gouvernements successifs d'organiser aussi des débats en mettant tout le monde ensemble, population, élus, partenaires sociaux, parce que je crois qu'on a besoin de se parler et je crois qu'il y a un besoin aussi de réfléchir à cela et peut-être de redéfinir ensemble quel doit être le modèle social aujourd'hui qui est pour tout un chacun le plus pertinent.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce qui est à l'œuvre à travers justement le débat aujourd'hui, les différentes réformes qui sont menées, c'est-à-dire une redéfinition du modèle social français?
Mais je crois que malheureusement aujourd'hui le gouvernement imprime un projet de société qui est assez individualiste, où c'est effectivement à l'excès ce si on peut on veut, il revient à chacun d'eux, etc. Oui, bien sûr qu'il y a une part d'individu dans chacune des décisions qui doit être prise, mais je crois que l'avenir au 21e siècle, c'est de faire humanité et de faire sens commun. Et que cela, c'est pas seulement comment effectivement je suis responsable ou pas. Et on trouvera toujours des gens, comme vous évoquiez, monsieur Lame, qui va dire, moi je paye des impôts. Donc évidemment, ça existera toujours. Mais je crois qu'il y a une envie aujourd'hui de se dire comment on fait sens ensemble. Comment on fait collectif ensemble. Regardez toutes les catastrophes qu'il y a, qu'elles soient climatiques, les attentats autres. Il y a très vite des réactions de commun, de ensemble, de on est concerné ensemble et comment on réagit ensemble. Donc moi je suis assez optimiste sur une société, malgré des crises, malgré des malaises profonds auxquels il faudra bien répondre, d'une société qui a aujourd'hui envie de faire sens commun, de vivre ensemble, de se poser ces questions et d'essayer d'y répondre ensemble. Je ne sais pas si ce qui se passe aujourd'hui le fera, mais je crois qu'on n'est qu'au début d'une crise profonde politique, et politique avec un grand P, elle est multiple, ces crises, et elle vient de très loin, donc on n'est qu'au début d'un mouvement de quelque chose, donc c'est pas le grand débat et c'est pas les 3 mois qui vont tout résoudre, et je crois qu'il y a l'opportunité de se dire, ben voilà, on bascule d'un côté ou d'un autre. On tombe dans l'individualisme, dans « je paye, donc j'ai le droit de », où on se dit, ben non, réfléchissons autrement. Et c'est tout le débat qu'il y a aussi à travers la transition écologique, la responsabilité qu'on a envers les générations futures, la planète, etc. Et moi, je crois que les services publics, en ce sens, répondent parfaitement à cette envie de collectif et de comment on fait ensemble et de comment on finance ensemble. Et je reste optimiste sur ces possibles, là, aujourd'hui, dans la société, voilà. Et ces envies-là.
En réalité, vous allez adorer mon bouquin.
J'espère, je vais en lire avec
intérêt. Ne porte pas sur l'État-providence, mais
exactement sur ce que... Merci, quel titre à la fin, hein, parce que vraiment, on a parlé de ça, finalement.
Sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le constat que j'y fais est de dire qu'on a aujourd'hui un déficit politique, un déficit de projet politique. Il n'y a pas de projet, de vision politique.
Je partage.
Je pense que l'une des faiblesses d'Emmanuel Macron est de ne pas avoir de discours sur le collectif, sur ce qui fait sens collectif, sur l'ensemble de ce qui fait sens aux réformes qu'il porte et pourquoi il les porte, et notamment de discours sur le CSP. Public là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, là où on est peut-être en désaccord, c'est sur les solutions évidemment que je propose pour permettre de construire ce projet. Je pense que aujourd'hui le rôle de l'État est d'assurer globalement d'une part une forme de confiance mutuelle entre les citoyens par la sécurité, la garantie du droit et autres, et d'autre part la cohésion par la redistribution. Or, aujourd'hui, on est dans un mouvement où l'État, je crois, n'est plus le plus à même d'assurer ces deux fonctions, mais en plus, on a des solutions venues de la société privée qui commencent à émerger dans un prolongement long que je ferai dater du même, commencerait aux échanges commerciaux du Moyen-Âge, où demain, l'échange, il va être assuré par la blockchain, la sécurité de plus en plus est assurée par d'autres solutions que la seule fonction régalienne, et la cohésion vient aujourd'hui, le dynamisme de la cohésion vient du dynamisme des associations et de la société. Donc je pense qu'on a une place plus grande à donner à la société, et mon point n'est pas du tout qu'il faut faire disparaître le service public, mais qu'il doit être transformé et que la place doit être celle plus grande pour la société dans cette vision collective.
Et sur une radio de service public, ça nous rassure plutôt, juste en 30 secondes pour conclure, Bernard.
Non, mais je crois qu'il faudrait rentrer dans ce débat, effectivement, par des questions très politiques au sens propre du terme et laisser quelque temps les questions économiques, pragmatiques et budgétaires de côté. Et effectivement, ce qui manque aussi à ce gouvernement pour aller très vite, c'est de ne pas avoir une vision de société, de ne pas la donner. Et quand, sur la question de la fonction publique, le premier discours de Gérald Darmanin est de dire, il faut réduire la dépense publique, donc voilà, on va prendre les postes, on va geler les salaires, etc. On a perdu politiquement parce qu'on ne permet pas ce débat d'idées, on ne permet pas de se poser les bonnes questions, de quoi vont nos besoins et comment nous organisons-nous. Donc oui, c'est pour ça que je dis le temps aujourd'hui, il est éminemment politique, donc faisons déjà la politique et ensuite, je crois qu'on sera capable de voir effectivement comment on le finance.
Et bien peut-être faudra-t-il verser cette discussion dans les contributions de ce grand débat national, puisqu'on voit bien comment, à partir d'une question ce soir qui avait l'air d'être exclusivement économique, on est allé progressivement et de plus en plus vers la politique. Merci beaucoup en tout cas Bernadette Groison, je rappelle, merci secrétaire générale de la FSU. Merci Erwan Lenoir. Les auditrices et les auditeurs nous appellent par milliers pour nous demander mais quel est le titre de son livre. Eh bien, c'est La France des opportunités aux belles lettres. C'était en 2017. Je rappelle quand même le vôtre aussi, Bernadette Groison. Finir avec les idées fausses sur les fonctionnaires et la fonction publique aux éditions de l'Atelier. Voilà, vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe du Grain. Virginie Leduo, Leïla Saïdi, Fanny Richer, Antoine Dulcer et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Peyre Le Gras avec à la prise de son Élise Leu. La dispute Arnaud Laporte, c'est dans 3 minutes.
Des milliers d'auditeurs, des dizaines, des centaines de milliers réclament la dispute, vous le savez, à 19h03. Et réclament aussi le thème du Club des idées de demain, Hervé Garnett.
Depuis le bar du Bel Air à Radio France, démocratie que révèle l'après-Brexit. Est-ce que ça révèle la crise de la démocratie directe, représentative, européenne? On verra tout ça avec notre club demain, avec une nouvelle venue. Mais je ne vous en dis pas plus.
Non, parce qu'il est 19h. Ben voilà. Il est temps de retrouver Aurélie Kiefer pour les titres de l'actualité.